钱，老饼。
Avec un plaisir pour le même devoir, un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui, Raphaël Sadiki Mekianoa, ancien ministre provincial de la justice et de l'intérieur de la province de Maniema, après l'indépendance. Papa Raphaël Sadiki Mekianoa, vous êtes notre grand témoin d'aujourd'hui. En rapport avec le 50e de la RDC, aujourd'hui nous sommes dans la province du Sud Kivu et c'est vous notre grand témoin que nous allons présenter auprès de nos auditeurs. Vous allez bien?
Je vais très bien et je suis très content de parvenir à cette date vu mon âge.
Dites-nous papa Raphaël, vous êtes né où et quand?
Je suis né dans le village de Katanga, en territoire de Fizi, le 6 juillet 1936.
Vous êtes originaire du Sud Kivu?
Bien sûr, je suis originaire du Sud Kivu.
Vous vous appelez Raphaël Sadiki Mekianoa? Mekianoa.
Mekianoa.
Mekianoa. Alors, ça a une signification particulière?
Mekianoa, ça signifie don, c'est-à-dire qui doit être donné.
Parlez-nous un peu de votre enfance. Vous avez passé votre enfance au Sud Kivu?
Bien sûr, j'ai passé mon enfance au Sud Kivu. Après ma naissance, j'ai fait mes études primaires à l'école primaire d'Ouvira, et puis j'ai fait mes humanités au collège Saint-Paul, actuellement Institut Kitumaini. Et puis après ça, j'ai été journaliste au centre de presse à Bujumbura, qui éditait les journaux Temps Nouveau d'Afrique, Odi, un bimensuel en Swahili, et puis Bibi Watasa, c'était un journal destiné à la femme.
Comment vous êtes retrouvé à Bujumbura?
Je me suis retrouvé à Bujumbura parce que c'est là où j'étais engagé après mes études, parce que une partie de mes parents restait là-bas. Alors, comme pendant les vacances, j'allais régulièrement à Bujumbura, au Burundi. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai une petite parenthèse que je veux ouvrir et refermer. Ça ne s'appelait pas Bujumbura, ça s'appelait Usumbura. Et c'est ainsi que j'ai été engagé là-bas au centre de presse de Bujumbura. C'était une imprimerie qui était dirigée et servie par le père missionnaire d'Afrique, appelé Père Blanc.
Et vous êtes revenu au Congo en quelle année?
Je suis revenu au Congo en 1962.
Pourquoi vous êtes rentré au Congo? Ça n'allait plus à Bujumbura? Ou bien votre contrat avait pris fin?
Non, c'est parce que mes compatriotes ont fait appel à moi. Ils ont dit que rester là-bas, ça ne convenait pas. Il fallait que je vienne donner ma contribution aux travaux de la construction de notre pays. Et c'est ainsi qu'au moment où on m'a appelé, c'était justement pour faire de moi un membre du gouvernement provincial. Et c'est ainsi que je suis devenu ministre provincial du Maniema, chargé de la justice et affaires interprovinciales.
On va y arriver. On fait un pas en arrière, on rentre à Bujumbura. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre passage à Bujumbura?
C'est une bonne question, madame. C'est le travail des journalistes à Bujumbura m'a ouvert beaucoup d'horizons parce que nous lisions beaucoup de journaux dans le cadre d'échanges avec les journaux que nous avions, Temps Nouveau d'Afrique, etc. C'était une sorte d'école pour moi. Ça a contribué à une formation, à une connaissance générale de ce que j'avais appris sur le banc de l'école.
Papa Raphaël Sadiki, est-il marié?
Oui, je suis marié et père de 11 enfants en vie.
Et combien de petits-enfants?
Des petits-enfants, j'en ai 49.
Ah, mais c'est une grande famille, ça, tout un village.
Le bon Dieu, vraiment, j'ai été comblé. Je n'ai plus que continuer à remercier le bon Dieu pour cette grâce.
Radio Kati, grand témoin.
Papa Raphaël parlant de votre retour au Congo. Vous dites qu'on vous a demandé, vos compatriotes, vous ont demandé de rentrer au Congo pour venir travailler, pour venir aider à la reconstruction du pays en 1962, donc 2 ans après l'indépendance. Et en 1960, lorsqu'on a proclamé l'indépendance du Congo, vous vous trouviez où?
Au moment de l'accession de notre pays à l'indépendance, je me trouvais à Bujumbura. Mais j'étais en contact permanent avec mes compatriotes qui vivaient au pays. C'est ainsi que, bien qu'en étant là-bas, j'étais membre actif du mouvement national congolais de Patrice Lumumba. Et c'est ainsi qu'au moment de l'accession du pays à l'indépendance, j'étais élu député national suppléant sur la liste cartel Inebati MNC Lumumba.
Inebati, ça signifie quoi?
Inebati, c'était une association à caractère économique qui signifie Union économique de Babembe de Fizi.
Et c'est qui vous a nommé?
C'est-à-dire le staff, puisque les membres, les directoires de l'Inebati étaient composés essentiellement des membres du MNC Lumumba. Et lorsque on a demandé de présenter les candidats, c'est cette sorte de plateforme qui a présenté ma candidature au poste de député national.
Et c'était quoi votre sentiment lorsqu'on a proclamé le Congo indépendant?
C'était vraiment une joie. C'était le sentiment de joie parce que j'estimais que la colonie opprimait l'autochtone. Et quand on a proclamé l'indépendance, je me suis dit, j'ai poussé un ouf de soulagement pour dire, voilà maintenant, nous allons nous exprimer comme nous voulons.
Est-ce que vous avez constaté un changement entre avant l'indépendance et après l'indépendance?
Oui, j'ai constaté un changement. Bien sûr, comme tout début, il y a des heures, c'est l'apprentissage. Évidemment, après que le pays est accédé à son indépendance, il y a eu ce problème-là d'apprentissage. Pour passer de coloniser maintenant aux responsables, ce n'est pas facile. C'est ainsi que j'ai constaté qu'il y avait des pas là, un peu d'hésitation, parce que nous devons l'avouer, on n'avait pas été préparé à cette indépendance.
Donc c'était un peu trop tôt pour les Congolais d'accéder à leur indépendance?
Trop tôt, oui. Et non, parce que les cadres que nous avions, nous estimons qu'ils étaient suffisamment rodés pour pouvoir diriger les autres, mais un grand nombre, c'était presque la masse. Le peuple n'avait pas encore, tout le monde n'avait pas, la grande majorité n'avait pas encore cette conscience de la responsabilité qui les attendait. Alors il fallait un temps pour pouvoir les roder et être habitué aux fonctions auxquelles ils étaient appelés.
En 1962, vous revenez au pays pour assumer la fonction de ministre provincial chargé
de la justice et affaires interprovinciales.
Et là, c'était dans le gouvernement provincial de Sekivu?
Non, c'était dans le gouvernement provincial du Maniema.
Alors, essayez de nous faire comprendre. Vous êtes originaire de Sekivu, vous revenez en 1962 au pays pour assumer la fonction de ministre provincial dans la province du Maniema.
C'est bien, je veux faire une sorte de mise au point là-bas, parce qu'en 62, la province du Kivu avait éclaté en 3 provinces. La province du Nord Kivu, du Kivu central et du Maniema. Alors, il y avait des territoires qu'on disait à l'époque soumis au référendum, connus sous le nom des territoires contestés. Entre la province du Sud du Kivu et du Nord Kivu, il y avait les territoires de Rutshuru. Et entre les provinces du Maniema et du Kivu central à l'époque, il y avait les territoires de Chabunda et de Fizi. Alors, comme ces deux territoires, ces deux provinces, se disputaient l'appartenance de ce territoire à leur entité provinciale, c'est ainsi qu'ils ont offert des postes de ministres dans leur gouvernement. C'est ainsi qu'au moment où, au Maniema, quand j'étais ministre provincial de la justice, il y avait un président provincial, l'équivalent actuellement du gouverneur, qui s'appelait Kanga Ignace. Il était originaire de Chabunda, parce que comme Fizi, le territoire de Chabunda était soumis au référendum.
Et donc c'est comme ça que vous venez être trouvé été ministre provincial.
Exactement.
Et vous avez fait combien de temps à ce poste?
J'ai fait 2 ans, de 62 à 64.
Et pour faire quoi par après?
Par après, je suis revenu à mes anciens amours parce que déjà j'étais à l'administration, les cadres territoriaux. Et je me souviens encore de mon numéro matricule, ça est 629. J'étais aux affaires intérieures à l'époque, chef de bureau chargé du bureau des affaires coutumières.
À partir de 1964, vous êtes revenu dans la fonction publique, c'est ça?
Oui. Depuis 1964, je suis revenu à la fonction publique et je suis resté à la fonction publique dans le cadre territorial jusqu'en 1970. Et lorsqu'il y a eu des élections en 1970, sous l'égide du mouvement populaire de la Révolution Impère en sigle, j'ai été élu député national circonscription électorale du sud du Kivu.
Retracez-nous un peu votre parcours politique, Papa Raphaël.
Oui, j'ai fait mes premiers pas en politique dans le parti Mouvement National Congolais d'Emery Patrice Lumumba. Et ça, c'était jusqu'en 1969. Et lorsqu'on avait créé le CVR, Corps des volontaires de la République, j'ai adhéré à ce mouvement-là.
C'était un parti politique ou bien une plateforme, un mouvement qui s'occupait de quoi?
C'était un mouvement qui soutenait, qui appuyait le régime Mobutu. Et oui, qu'on appelait CVR, Corps des volontaires de la République. Et puis à la création du mouvement populaire de la Révolution, tous ses membres ont adhéré au mouvement populaire de la Révolution. Et c'est ainsi que, comme j'étais membre de ce corps-là, je suis entré de plein pied dans le mouvement populaire de la Révolution d'IMP.
Et jusqu'en quelle année comme ça, jusqu'au départ du maréchal?
Oui, je suis resté dans le mouvement populaire de la Révolution jusque après la chute du maréchal. Et après sa chute, je suis resté à un moment donné dans un tas d'observation parce que je ne voulais pas me précipiter d'adhérer à un parti comme ça sans connaître les objectifs, etc., etc.
Alors aujourd'hui, on se retrouve encore dans la fonction publique comme chef de bureau à la division provinciale de la fonction publique Sud-Kivu, chargé des actifs. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu.
Ce service qui gère les agents de l'État. Hein, c'est-à-dire, en temps normal, les promotions doivent passer par la fonction publique, c'est-à-dire par la cotation. Mais depuis un certain temps, les cotations ne se font plus et on fait, je ne sais, plusieurs années dans un grade. C'est à cause de toutes ces perturbations des guerres que cela ne se fait pas. Mais sinon, la fonction publique, c'est le service qui gère les agents de l'État.
Et comment se présentait la fonction publique après l'indépendance?
C'est-à-dire, avant l'indépendance et après, les gens qui voulaient faire leur carrière dans la fonction publique, ils constituaient un dossier, on l'envoyait à Kinshasa et ça ne traînait pas. Les numéros matricules venaient et on commençait à toucher par accréditif. Mais depuis un certain temps, il y a des gens appelés communément NU, c'est-à-dire des nouvelles unités qui n'ont pas de numéro matricule. Ils attendent. Par contre, il y a des gens qui y ont fait beaucoup parce que pour être mis à la retraite, il y a des conditions. Quand vous atteignez 55 ans d'âge de naissance, on vous met à la retraite. Ou bien, quand vous faites 30 ans de service révolu, on vous met aussi à la retraite. Or, il se fait que, hélas, ces deux conditions, pour le moment, ne sont pas encore respectées. Il y a ceux qui ont dépassé largement l'âge de 30 ans de service ininterrompu et ceux qui ont dépassé l'âge de 55 ans pour être mis à la retraite. Et des ce qu'on appelle les nouvelles unités qui devraient remplacer ceux qui devaient être mis à la retraite attendent. Et même certains ont déjà atteint, s'ils avaient les numéros matricules, 30 ans de service revolu. C'est un constat, mais c'est dommage, mais c'est ça la réalité.
Alors, papa, rappelle juste que vous aviez quel âge à l'époque, en 1960?
En 1960, j'étais vraiment très frais. J'étais encore trop jeune. Comme qui dirait, j'étais vraiment à la fleur de l'âge. À l'âge où on devait voir la vie en rose. J'avais justement 24 ans.
Et vous étiez déjà marié?
J'étais déjà marié et j'avais déjà deux enfants.
Alors, c'était quoi la musique pour vous intéresser à la musique?
Oui, je m'intéressais à la musique et la musique qui...
Qui battait son plein en 60, c'était quel genre de musique?
C'était l'African jazz de Kalika.
Et c'est quelle chanson qui cartonnait en ce moment-là? Indépendance, Tcha-Tcha?
Oui. C'est comme si vraiment vous sondiez mon cœur. J'allais vous dire quand est-ce que je vais mourir. Vous êtes comme prophète, madame. Vraiment, c'est ça. C'est exact. C'est cette chanson-là que j'aimais beaucoup, que j'adorais.
C'est quoi que vous aimiez dans la chanson? Parce qu'on parlait de l'indépendance, la mélodie, les paroles, c'était quoi que vous appréciez?
C'est parce que justement, ça me rappelait ce passage de la colonisation à l'indépendance. Parce que pour moi, j'avais gardé un peu ce que Sékou Touré avait dit au moment où la France avait organisé le référendum. J'ai toujours retenu que je préfère la pauvreté dans la liberté que l'opulence dans l'esclavage.
Soyez un peu plus précis et clair pour les auditeurs qui nous suivent.
C'est-à-dire, à ce moment-là, les Belges nous gâtaient en quelque sorte, mais on n'était pas libre. On vous guidait, il faut faire ceci, il faut faire cela, on restait éternellement enfant. Et ça ne me plaisait pas. Je ne pouvais pas m'épanouir dans ces conditions-là. Et si j'ai un sang chaud, révolutionnaire, etc., et c'est ainsi que vraiment l'indépendance pour moi c'était quelque chose de merveilleux. C'était pour moi, c'était, je ne sais comment trouver les mots, mais deviner ce que c'est vraiment dans une euphorie de joie que j'ai appris la proclamation de notre pays à l'indépendance.
Voilà, en 1962, quand vous êtes revenu travailler ici comme ministre, est-ce qu'il y avait encore des Belges?
Il y avait quelques Belges, mais il n'était plus beaucoup. C'est-à-dire pratiquement tous les Belges qui travaillaient dans l'administration étaient déjà partis. Ce qui était resté, c'était quelques colons qui étaient restés encore dans le pays.
Et qui faisaient quoi? Qui assumaient des fonctions dans le pays ou bien ils avaient leurs affaires en privé?
Non, c'était les activités libérales. Ils étaient dans les plantations, etc. Mais à l'administration, il n'y avait plus quelques personnes à l'administration pour exercer des fonctions publiques.
Est-ce qu'au Maniema aussi, avant l'indépendance, il y avait un quartier réservé aux Blancs et un quartier réservé aux Noirs?
Oui, comme partout ailleurs au Congo, c'était comme ça. Les Européens avaient leur quartier et les indigènes, comme on nous appelait, nous avions notre quartier. C'était la même chose.
Après le 30 juin 1960, est-ce que les choses ont changé? On ne parlait plus de quartier des Blancs et des indigènes?
Non, nous étions devenus maîtres de tout. Parce que...
Pas des maisons des Blancs quand même, vous avez pris toutes leurs maisons.
Prendre les maisons, parce que c'était les maisons de l'État. Et lorsqu'un agent de l'État part, et qu'il y a un autre agent de l'État, il ne s'empare pas, il entre dans ces maisons-là parce qu'il va être... C'est une maison de fonction.
Et donc, vous avez récupéré tout ce qui appartenait à l'État?
Oui, nous avons récupéré parce qu'ils étaient partis. Il ne pouvait plus y avoir un dédoublement. parce que ça serait un bicéphalisme, un service. Ils étaient partis et il y avait déjà un Congolais qui était là. Il était tout à fait normal qu'il puisse exercer les fonctions et occuper la maison que l'expatrié occupait.
Papa Raphaël Sadiki, aujourd'hui 50 ans après, quel bilan vous dressez du parcours de la RDC?
Évidemment, le parcours a été souvent jonché d'embûches. Et pour moi, je puis dire que c'est une expérience. C'est une expérience parce que après la question du pays à l'indépendance, on a connu beaucoup de guerres. D'abord, les Belges qui ont voulu, je ne sais pas, reconquérir le pays. Et puis après, il y avait tant de guerres qui se sont succédées. Et ça, je crois que pour tout Congolais avisé, ça sert de leçon. Je dois dire aussi que ça raffermit les sentiments de patriotisme, de nationalisme et de l'unitarisme. Donc, j'estime que c'est une bonne chose parce que après avoir, quand on a franchi ces étapes de beaucoup de difficultés, on en sort regardé.
Papa Raphaël, certaines personnes pensent que le Congo est toujours dépendant de l'Occident. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dépendant de l'Occident, je ne dirais pas non, parce que tous les pays, au fond, il y a l'interdépendance. Il n'y a aucun pays qui se suffit à lui-même. Donc, nous sommes, dans ce cadre-là, nous collaborons avec les autres pays et tout ça. Nous ne pouvons pas nous considérer comme dépendants, comme qui dirait peut-être sorte d'esclaves, ou quelqu'un qui reçoit le mot d'ordre de tel ou tel. Non, je ne suis pas de cet avis.
Chef d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Alors, papa Raphaël, quand vous n'êtes pas au service, comment vous passez vos moments de loisirs? Le week-end, par exemple, dimanche, comment vous passez vos moments de loisirs, de détente?
Bien sûr, je suis un grand dévoreur de bouquins. J'ai lu beaucoup de livres, etc. Et puis aussi parce que je suis un chrétien pratiquant, je vais à la messe. Et à mon retour, j'ai rends quelques visites. Et puis après, je rentre chez moi et j'ai lu. J'ai lu beaucoup.
Vous lisez beaucoup, vous n'avez jamais songé à écrire, par exemple, sur un phénomène que vous avez vécu?
Jusque-là, je n'ai pas encore rendu effective cette idée, mais il y a beaucoup de compatriotes qui me demandent d'écrire sur notre pays, etc. J'y songe, mais jusqu'à là, je n'ai encore rien fait. Mais c'est dans ma tête.
Et vous allez faire ça quand, papa? Après, les années passent, vous grandissez aussi, non?
Très prochainement, je vais m'y mettre.
Vous aimez toujours la musique?
Je l'aime, pas autant comme quand j'étais encore très jeune.
Bon, même si ce n'est plus comme au temps où vous étiez très jeune, mais c'est quel genre de musique que vous aimez bien écouter, papa Raphaël?
J'aimais la musique de Franco, L'Homme de mi amor. C'est musique parce que j'ai trouvé en lui que c'était vraiment un moraliste.
Et quelle chanson particulière de Mambo que vous aimez écouter, un titre qui vous vient à l'esprit comme ça?
Pour le moment, je n'ai pas. Il y avait là une chanson qui relatait un peu l'unité, ce qui fait l'unité. Je ne connais pas le titre, mais je peux dire quelques mots. Le Congo, Zaïre, Cotina, Ekomi, Ena, la mer, quelque chose comme ça.
Je vois bien ça. Bon, alors, Papa Raphaël, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un message particulier à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment à travers Radio Kapi. C'est une radio qui est suivie partout en RDC et même en dehors du pays. Les gens nous captent sur Internet. Vous avez un message particulier par rapport à ces 50 énarques que nous allons fêter le 30 juin 2010.
Bien sûr, madame, les messages que je puis adresser à mes compatriotes partout où ils se trouvent, c'est être optimiste. L'avenir est radieux, je le pressens, mais il faut que nous continuions à pratiquer les sentiments de patriotisme, les sentiments de nationalisme, les sentiments d'unité, et puis surtout inculquer à nos enfants la notion du travail. Parce que le pays ne peut pas progresser sans travail. La clé du développement réside dans le travail. Et le travail bien fait, la conscience, aimer le travail.
Papa Raphaël, ça dit que Mekianoa, c'était un plaisir de vous rencontrer pour faire votre témoignage, nous dire comment vous avez vécu l'indépendance en 1960. Je vous remercie.
C'est plutôt moi qui dois vous remercier, madame, parce que vous me rappelez des bons souvenirs de ma jeunesse. Et puis, c'est une grâce aussi, parce que j'arrive à cet âge, ce n'est pas tout le monde qui a mon âge. Beaucoup de ceux qui ont vu notre pays accéder à l'indépendance ont été rappelés par le Seigneur, mais je le remercie parce qu'il me maintient encore. Peut-être que mon existence, ma vie, peut servir encore à quelque chose à nos jeunes enfants.
Oh, no.
Voilà. Merci, c'était un plaisir. Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Raphaël Sadiki Mekiawa, ancien ministre provincial de la justice et de l'intérieur de la province du Maniema après l'indépendance. Kéline Couto vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radioocapi.net où vous avez la possibilité de retrouver toutes les autres émissions des grands témoins. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Radio Okapi.